Bonjour et bienvenue à la 23e édition de Litteramour. Depuis que j'ai commencé à lire Éric Vuillard, je ne peux plus me passer de sa littérature. Sa connaissance de l'histoire, la subtilité de ses observations et sa capacité à penser et à présenter différentes perspectives ensemble sont assez uniques. La lecture de ses livres, plutôt courts, autre preuve de son talent pour pénétrer des situations complexes, change le regard sur les mouvements révolutionnaires, sur les guerres, sur la soi-disant bonne société et le zèle politique des dynasties financières de la grande bourgeoisie. L'auteur traque les moments historiques. Il les dissèque avec ironie, compassion et avec une certaine fermeté, car il s'arroge clairement le droit de remettre en question la description des événements et des activités politiques, mais aussi de les juger de manière subjective. Peu de temps après la sortie de la traduction allemande de son dernier livre, Éric Vuillard a visité Francfort et Berlin. J'ai eu l'occasion de le rencontrer avant une lecture débat. Une sortie honorable traite de la colonisation et de la guerre d'Indochine. L'auteur nous présente des généraux et des hommes politiques qui ont trempé le peuple français pendant des années sur l'ampleur des pertes humaines comme sur les bénéfices exorbitants de la Banque d'Indochine. Le 7 mai 1954, la débâcle de Dien Bien Phu a mis fin à la guerre. J'ai demandé à Éric Vuillard ce qui l'avait poussé à remettre en question le récit courant de cette guerre.
Je décrète jamais, a priori, que je vais travailler sur tel ou tel sujet ou tel thème. C'est pas une décision liminaire. C'est plutôt que je lis des livres sur les sujets qui m'intéressent, je regarde des films, etc., des photographies. Bon. Et puis parfois, comme tout le monde, un détail, quelque chose sur une photo, ou alors deux documents mis côte à côte, tout à coup, qui m'arrivent, viennent en fait troubler l'idée que je pouvais me faire auparavant, soit de tel événement, soit de telle période, soit d'une certaine ambiance. Et là, il y a eu plusieurs choses qui sont venues déclencher l'intérêt que j'avais depuis longtemps, entre autres donc pour la colonisation et la guerre d'Indochine. Enfin, la première chose peut-être, c'est une idée qui m'est venue petit à petit, comme ça, qui est pourtant une chose évidente, mais qui est finalement absolument contraire à l'idée qu'on se fait, c'est que les guerres coloniales, les dates des guerres coloniales, ont été données évidemment par le colonisateur qui dit à partir de 1946, c'est la guerre d'Indochine. Or, en fait, il m'est venu l'idée que tout simplement, les guerres coloniales commencent au moment de la conquête. Aucun peuple n'a jamais accepté la sujettissement et a accueilli les colons en disant merci, restez là, installez-vous. Bon. Donc en réalité, cette datation de guerre coloniale est curieuse en soi. Et donc voilà, à partir de là sans doute, j'ai commencé à relire un peu différemment des épisodes qui précèdent la guerre au fond. Et mon livre commence avant donc, la guerre, dans les années 20 justement. Et puis j'étais tombé sur un petit document, un guide de voyage. Alors il y a en France, comme j'imagine à peu près partout, dans tous les pays qui ont eu de vastes empires coloniaux, un discours aujourd'hui relativement révisionniste. On n'est plus dans une période très avancée, donc on a un recul, au contraire, des points de vue qui fait que beaucoup de gens soutiennent, il y a une continuité, hein, c'est pas d'aujourd'hui, mais qu'au fond, il y aurait quand même au fond des aspects, disons, positifs à la colonisation, on a entendu ça en France très fortement. Ou alors, cet argument qu'on trouve souvent, que les gens, évidemment, ce qui est vrai en partie, ne pensaient pas la même chose à telle ou telle époque, ne se comportaient pas de la même manière, qu'il y avait une sorte de, disons, régime de la sensibilité qui aurait changé, et qu'on ne peut pas donc juger avec les yeux d'aujourd'hui ce qui s'est passé hier. Alors, ce qu'il y avait d'intéressant tout de même avec l'Indochine, c'est qu'au fond, en tout cas pour ce qu'on appelle la guerre dans les manuels scolaires, il s'agit de mes grands-parents, donc de gens que j'ai connus. Du coup, la sensibilité, le régime a changé, mais enfin, pas totalement. Et par ailleurs, donc, en tombant sur ce guide de voyage, il se trouve que justement, le goût pour le voyage, c'est une chose tout à fait moderne, c'est une chose que je partage, que nous partageons tous à peu près. Bon, pour ceux justement qui, habitant les pays, disons, occidentaux et riches, ont les moyens de voyager à l'étranger. Et puis, il se trouve que justement, dans ce guide des années 20, un petit guide touriste, donc sur le au Tonkin, au départ, il y avait notamment un petit lexique. Et en parcourant ce lexique, j'ai été frappé aussitôt par le fait que tous les termes qu'on y trouve sont des désordres, en fait. C'est-à-dire, lève la capote, baisse la capote, donc adressé à un pouce-pouce, va à la banque, va à la concession, va à l'hôtel. Et il y avait deux choses. Il y avait non seulement que tous ces termes, on aurait pu mettre au fond un point d'exclamation derrière, mais il traçait en plus une sorte de géographie, disons, de la colonie, du pouvoir et de la servitude, on peut dire, c'est-à-dire la concession, le commissariat, et l'hôtel et quelques autres destinations comme ça. Du coup, ce lexique, au fond, qui était donc pris comme ça dans une sorte, on pourrait dire, de grammaire de la servitude, m'a semblé répondre, au fond, au lieu commun, qui consiste à dire, mais non, tout d'abord, on était différents, il y avait un autre régime de la sensibilité, et puis bon, les gens n'étaient pas aussi, je sais pas comment dire, les choses n'étaient pas aussi tranchées qu'on le veut, etc. Et bien là, dans un registre, justement, en principe, comment dire, aussi tourné vers l'autre que prétend être le tourisme, c'est-à-dire on irait par curiosité, voyez, etc. C'est à la fois moderne et aimable, on peut dire, le tourisme. C'est une activité bénigne, voyez, on est tourné vers autrui, bon, ça fait de mal à personne, paraît-il. Or là, on voit que le lexique qui était supposé, au fond, servir aux touristes, était absolument dénué du moindre mot de politesse. Au tout début, le premier chapitre de mon livre commence dans une plantation et je me suis appuyé, sans inventer ni aucun dialogue ni aucun fait, sur un rapport en fait, de l'administration coloniale, de l'inspection du travail.
Puisqu'il y a plusieurs drames qui décident du cours de l'histoire, il y a une scène clé très révélatrice, c'est la discussion, et là on est vraiment en pleine guerre, dans laquelle Pierre Mendès-France était seul à dire non à la continuation de la guerre. Et la manière dont son intervention fut rejetée, c'était infâme. Avez-vous éprouvé la nécessité de le réhabiliter en quelque sorte ?
Et là, dans le passage que vous mentionnez, en fait, plusieurs chapitres se rapportent à une journée. J'ai donc lu le journal officiel, travaillé d'abord sur lui, une journée d'octobre 50, où effectivement, Mendès-France prend une position qui, à part les communistes, vient contredire, s'opposer, au fond, au point de vue de tout l'éventail politique dont il fait partie, hein, et dont il est même une figure, on peut dire, extrêmement importante, en fait, hein, remarquable même, à plein d'égards. Et ce qu'il y a de curieux, c'est que quand on lit un document comme justement celui d'abord de l'administration coloniale, de l'inspection du travail, ou alors le journal officiel, tous deux sont pris dans des institutions tout à fait différentes, dans un langage particulier. L'inspection du travail dans un langage bureaucratique, qui est le langage du droit en partie, qui cherche à qualifier les faits, savoir si ce qu'il observe, les faits de torture, etc., sont interdits ou non. Vous voyez, bon, et à quel degré, quand on trouve des gens attachés avec un fil de fer au pied, en réalité, c'est légal, voyez, par exemple. Ce qui nous choque tout à fait, qui choque d'ailleurs l'inspecteur du travail, puisqu'il s'arrête.
Mais vous avez bien réussi ce choc, parce que l'inspecteur qui voit cet homme qui est attaché, qui est nu, qui est exposé, il va les dénoncer, mais il retourne et rien ne se passera, donc tout reste sans conséquence.
Oui, c'est-à-dire d'ailleurs pour une part, évidemment, lui note... comment dire, inscrit les preuves de ce qu'il a vu, donc c'est important ce qu'il fait. Néanmoins, à un premier échelon, avant même le fait que ça n'ait pas de conséquences, on peut dire que la langue bureaucratique elle-même est faite pour ça. Elle est faite évidemment aussi, il faut bien pouvoir qualifier les faits juridiquement, hein, bon. Mais néanmoins, elle joue un office. Et son office est très différent de la langue littéraire. Son office est quand même de refroidir les faits. Il est pour une part de les présenter d'une manière qu'on appelle neutre, et qui en fait ne l'est pas, puisque la neutralité n'est pas de ce monde. Et puis, alors pour revenir sur la journée politique, disons le journal officiel, c'est une toute autre langue, mais c'est d'une certaine manière la même chose. C'est-à-dire qu'à la lecture, on voit bien à la lecture du journal officiel que Mendès-France est isolé, mais je n'avais pas saisi le degré de violence en fait qui va s'opposer à lui et tenter de lui faire barre, de l'empêcher de convaincre un certain nombre de personnes dans l'hémicycle. C'est en écrivant, au fond, je suis tombé sur ce journal officiel, cette journée. Il y a plusieurs choses qui m'ont attiré et donné envie d'écrire, puisqu'il y a toute une dramaturgie comme ça au Parlement. De surcroît, le Parlement qui est au fond une institution très importante de la vie collective, des démocraties modernes, finalement très peu de romans s'y passent. C'est comme si la littérature oubliait ce lieu-là, comme si c'était pas un lieu littéraire. Bon. Et il me semble qu'au contraire, il était vraiment intéressant d'essayer justement de raconter. Au début, j'étais attiré par un certain nombre d'événements. Et au fond, ce qui m'a intéressé en écrivant, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire, j'ai buté sur un certain nombre de mots, d'expressions, sur un certain langage, et notamment sur deux répliques, deux moments, où deux personnalités politiques à l'époque, qui sont tout à fait méconnues aujourd'hui, mais de premier plan, l'un appartenant à la gauche, qui avait fait partie du Front populaire, Maurice Violette, qui avait eu un rôle tout à fait important dans la politique française, et puis l'autre, Edmond Michelet, qui est un homme au contraire de droite, catholique, mais résistant de la première heure, considéré comme tout à fait honorable, etc. Tous deux vont prendre la parole à plusieurs heures d'intervalle, et vont l'un comme l'autre... non seulement s'opposer à Mendès France, qui est pourtant, pour Maurice Violette, un homme très proche de lui, qui est même, pour Edmond Michelet, en tant qu'ancien résistant, un homme aussi assez proche de lui, au fond, qui a lui aussi une réputation d'honnêteté, etc., vont s'y opposer avec des mots qui sont d'une grande violence, sur lesquels, à première lecture, on peut, disons, être heurté, mais sur lesquels on va passer, en quelque sorte. Alors que là, en écrivant, il faut bien les prendre en charge. Enfin, il faut essayer de comprendre la signification qu'ils ont. Et ils ont une signification étrange, puisque ce qu'ils opposent à Mendès France, c'est qu'ils lui disent « La politique que vous voulez mener, en essayant de négocier avec... le Viet Minh, c'est au fond une politique défaitiste. Et cette politique, en dernière instance, lui dit Maurice Violette, c'est juin 40. Et juin 40, c'est quand même la politique, la prise de pouvoir du maréchal Pétain. Et puis, de manière encore plus violente, un peu plus tard, Edmond Michelet, revenant sur ce qu'a dit Maurice Violette, et disant qu'il s'adossait tout à fait au discours que celui-ci venait de tenir, va plus loin, puisqu'il prononce le mot, il dit « Votre politique, en dernière instance, c'est Vichy ». Or, il se trouve que Mendès France est juif, qu'il a été persécuté par le régime de Vichy, qu'il a frôlé la mort, qu'il a dû s'enfuir, qu'il a été ensuite résistant. Et donc, c'est très curieux puisque, si vous voulez, quand on le lit comme ça, on perçoit une gêne atroce, mais on ne perçoit pas tout ce que peut avoir de pervers, au fond, cette réplique, puisque ça n'est pas à proprement parler une réplique antisémite. C'est, d'une certaine manière, pire. C'est une réplique qui dit à Mendès, au fond... Vous êtes semblable, vous voulez mener une politique semblable à ceux qui ont voulu vous tuer.
Il y a des phrases qui déclenchent beaucoup d'images. Quand vous dites par exemple de René Pleven, le président du Conseil, lorsqu'il entendit le mot vérité, il se redressa avec un air de désapprobation. Cela n'a pas été mentionné, je suppose, dans des protocoles. Donc c'est là votre imagination. Quel regard portez-vous aux hommes politiques, quand est-ce que votre imagination prend la...
Oui, se met en route.
Se met en route.
En fait, le statut de l'imagination est toujours une chose un petit peu particulière. Tout d'abord, on présente souvent la littérature comme étant justement le domaine de l'imagination et les sciences humaines ou la politique du côté, disons, du discours sérieux, du discours réaliste. Bon. La politique se présente même comme étant du côté de la responsabilité, toujours c'est le mot préféré des hommes politiques, pas de tous, mais enfin, disons que c'est un mot qui circule assez largement. Or, je ne souscris pas à cette vision de l'histoire littéraire, de l'histoire politique et de l'histoire des sciences humaines. Je crois qu'au contraire, la littérature, son objet premier n'est pas de créer des fictions, n'est pas l'imaginaire. Je ne dis pas qu'elle en est dépourvue, mais ça n'est pas l'objet premier. L'objet premier de l'histoire littéraire consiste au contraire à aggraver son rapport à la réalité. Pour prendre un exemple, je ne pense pas que ce qu'il y a de frappant chez Balzac, ce soit tant son imagination que la façon dont il essaie de rendre compte de la vie sociale et de s'en faire, comme il le dit lui-même dans l'introduction de la Comédie humaine, le secrétaire. Il dit je suis le secrétaire de la société. Et ça n'est pas à prendre à la légère, puisque de ce point de vue-là, la littérature a précédé les sciences humaines, au fond. Il y a une très belle préface de Jean Mallory, qui était donc un grand anthropologue qui a travaillé sur les Inuits, qui a écrit de très beaux livres, et qui dirigeait en France une collection Terre humaine, et qui a signé une préface au carnet d'Émile Zola, et qui dit qu'au fond, Zola est le premier anthropologue, ce qui, du point de vue des dates, est incontestable, puisque Zola va enquêter, il va à Anzin, enquêter sur les mines, les grèves qu'il a pu avoir, il s'introduit chez les gens, discute avec eux, chez les ouvriers, les contremaîtres, comme l'écrivain jouissait d'un grand prestige à l'époque, il est accueilli aussi par les grandes familles industrielles, etc. Et il peut donc avoir une vision panoptique de la vie sociale et en rendre compte. C'est donc moins Germinal une œuvre d'imagination qu'à certains égards un rapport plus grand à la réalité, plus grand que précédemment, puisqu'à la différence de Balzac, il enquête. Alors du coup, sur Pleven, il y a tout un tas de moments où évidemment, il y a quelque chose qu'on pourrait appeler effectivement une activité qui est de l'ordre de l'imagination. Mais prenez, alors j'ai amené là un petit document qui permet de je pense de répondre un peu à ça. Est-ce que je l'ai pris sur moi ou est-ce qu'il est là? Je l'ai peut-être laissé. Ah, à moins qu'il soit là. Oh. Je le connais, en tout cas, je peux vous dire ce qu'il y a dedans. Ah oui, non, je l'ai là. Voilà. C'est un document d'Edmond Michelet. Alors, évidemment, on peut, de la même manière qu'avec Pleven, on pourrait dire avec Michelet, vous lui donnez une sorte de profondeur, au moins psychologique, qu'il ne peut pas avoir dans le journal officiel. C'est vrai, mais à ceci près que, en lisant sa correspondance et d'autres documents, tout comme Pleven, en essayant de savoir d'une certaine manière à qui j'ai affaire, J'essaie de résoudre, par exemple, pour Michelet, de mieux comprendre cette question qui est comment se fait-il qu'un homme qui a sauvé les Juifs pendant la guerre, qui a été résistant, on peut même dire avant De Gaulle, puisqu'il a fait un appel à Brive-la-Gaillarde, bon, qui a eu moins de succès, si je puis dire, mais un jour avant le général De Gaulle, donc vraiment un homme de ce point de vue-là irréprochable, comment se fait-il qu'il puisse dire à Mendès France une telle chose ? Votre politique, c'est Vichy. C'est-à-dire avoir cette rhétorique plus que spécieuse, perverse. Eh bien, quand on regarde sa correspondance, à peu près au même moment, donc en 1956, il écrit donc à l'un de ses amis intimes, et les correspondances intimes, évidemment, sont toujours comment dire, une indication sur le relief de l'âme, le relief de l'esprit. Il écrit ceci. « Parlant de l'ONU, où il est le représentant de la France, l'ambiance est toujours calamiteuse. Je ne décolère pas contre ces fonctionnaires veaux qui ont peur de faire de la peine à tout le monde, c'est-à-dire à Krishna Menon, au Guatémaltèque, au Népalais, mais oui, mon vieux, on a droit à un Népalais, enfin, à tout ce ramassis de minables qui dégorge sur nous une rogne accumulée par des siècles de leadership blanc, pardon de m'angliciser. » Donc on voit en fait là qu'on a affaire à ce qu'on peut appeler le racisme le plus primaire. C'est-à-dire, il considère que les gens qui représentent le Népal, le Guatemala, en gros, sont des métèques. Vous voyez, un Népalais, avec un point d'exclamation, se ramassit de minables, voilà, qui dégorgerait contre le leadership blanc, etc. Et il va jusqu'à s'excuser de l'anglicisme, c'est-à-dire que là, c'est même il y a la totalité de la panoplie, il faudrait que tous les mots soient en français et traduits. Et puis, il faut voir qui est Krishna Menon, donc, dont il se moque, donc, c'est-à-dire à Krishna Menon. Krishna Menon était une personnalité tout à fait importante politique du monde de l'Inde, indien, qui, si je ne me trompe pas, donc, devait être une famille de brahmanes, qui avait fait des études prestigieuses en Inde, et dans je ne sais plus quelle grande université, disons Oxford ou quelque chose de ce genre en Angleterre, qui doit parler donc au moins deux langues, voire trois, qui en plus a pour caractéristique d'être mince, élégant et d'être extrêmement beau. Et donc on peut dire que pour Edmond Michelet, même quand on est brahmane, qu'on a donc été à l'université en Inde, en Angleterre, qu'on parle plusieurs langues, eh bien ça ne suffit pas, on est encore finalement un Indien. Voyez, donc ça donne une sorte de profondeur en fait psychique un petit peu à Edmond Michelet qui vient troubler disons la figure du résistant et permettre du coup de saisir et donc d'essayer d'incarner d'une façon la plus juste possible en tout cas ce qui pouvait être durant cette journée d'octobre 1950 à l'Assemblée nationale.
Pour moi le chapitre clé c'est celui sur la transformation de nos glorieuses batailles en société anonyme. Et cela m'a fait aussi penser à l'ordre du jour où vous décrivez le 20 février 1933, où il y a 24 hommes qui se rendent au palais du Reichspräsident pour rendre hommage à Göring et Hitler. Et vous dites, ils ne s'appellent pas Schnitzler, Witzleben, Fink, Rosenberg, Heubel, etc. Ils s'appellent BASF, Bayer, Agfa, Opel, IG Farm, Siemens, Allianz. Ils sont donc parmi nous, ils sont nos voitures, nos machines à laver, nos produits ménagères, nos assurances, ils sont partout. Et je trouve que vous venez de raconter aussi une histoire d'une domination permanente et invisible de l'argent, en ouvrant cette polémique aussi contre les profiteurs de la guerre, en premier lieu, la Banque de l'Indochine.
Alors, le premier point, c'est qu'il me semble, enfin on peut dater en tout cas peut-être, le début, l'amorce de la littérature moderne à Jean-Jacques Rousseau, c'est-à-dire à ce qui est le plus palpitant du siècle des Lumières et ce qui aura le plus de conséquences à la fois politiques et littéraires. Et je pense précisément dans ce petit livre qu'est le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, où Rousseau, et notamment à l'intérieur, cette petite narration de Rousseau sur l'origine de la propriété, où il nous dit que le premier homme qui a posé quatre piquets et que les autres ont laissé faire, etc., est à l'origine, en gros, de toutes les misères du genre humain, etc., et qu'on aurait dû, effectivement, arracher les pieux, combler les fossés et dire que les fruits sont à tout le monde et que la terre n'est à personne. Eh bien, cette petite narration de Rousseau, elle ouvre ce qu'on peut appeler la voix narrative, c'est-à-dire ce qu'est la voix narrative moderne, en tout cas, c'est-à-dire une voix qui est libérée d'une sorte de tabou ou de pesanteur, d'obscurcissement premier, qui est qu'au fond, ce qui structure toute société, malheureusement, c'est l'inégalité. sous des formes très différentes, mais au fond, toute société, qu'elle soit féodale, moderne, etc., est structurée géographiquement, physiquement, évidemment patrimonialement, par l'inégalité qui fait qu'elle est hiérarchisée, etc. Et au fond, cette inégalité première est, je crois, ce qui palpite au cœur de toute la littérature moderne. Au fond, d'une certaine façon, elle raconte toujours quelque chose de cet ordre, que ce soit Balzac, que je citais tout à l'heure, ou Joyce, par exemple, qui, sous une forme, comme ça, disons, plus sophistiquée et plus proche de nous, dans le monologue de Molly, par exemple, nous dit quelque chose de l'inégalité fondamentale entre les femmes et les hommes, quelque chose de la situation donc de la femme de Bloom et de ce silence, on peut dire, des femmes qui, là, la nuit, effectivement, dans le monologue intérieur, peut s'épandre librement. Voilà. Je veux dire, quand on traverse, par exemple, Le Rouge et le Noir, on peut se dire que c'est tout simplement une succession d'histoires d'amour ou d'arrivisme, bon, peu importe comment on le prend, mais en réalité, c'est avant tout l'histoire d'un petit sieur du fils d'un sieur de bois, qui, dans une société, moyennement autoritaire, mais très inégalitaire, tente de faire son chemin, ne peut le faire que par les femmes. D'abord, on lui propose le séminaire, il n'a pas tellement envie de devenir curé, et donc ensuite il le fait par les femmes, et ça termine très mal. Voilà. Donc, je pense tout d'abord qu'il faudrait réinterpréter l'histoire littéraire, de ce point de vue-là, comme étant une s'enracinant, en tout cas, dans quelque chose qui est ce discours-là, dans un discours qui nous dégrise, au fond, d'une espèce d'illusion première qui voudrait que, bon, ben, le monde est ce qu'il est. Eh bien non, depuis Jean-Jacques Rousseau, les écrivains, d'une certaine façon, en tout cas toute une tradition d'écrivains, qui est le courant, je pense, majoritaire, on peut dire, de la littérature, n'accepte pas, en fait, cette situation de fait.
Pour parler un tout petit peu, avant de finir, de la galerie des portraits que vous faites. Et ça m'a fait grand plaisir de voir, par exemple, Édouard Herriot avec son corps fatigué et bien trop lourd, de découvrir que, par exemple, et ça je crois que c'est, vous l'avez imaginé, je suppose, mais je ne sais pas, le général Navarre qui lit son horoscope, échange de stratégie quand il n'est pas très favorable pour ce jour même. J'avais grand plaisir de lire comment les gens de l'Assemblée vont déjeuner, et au déjeuner, ils jouent, en attendant le dessert, la bataille de Cao Bang avec assiette et fourchette. Donc, ce sont des scènes que j'imagine vous avez inventées.
Alors, juste, je reviens juste un instant sur la question précédente. Sur, évidemment, dans mon livre, l'institution, enfin, il y a un certain nombre, au travers des personnages, d'institutions comme ça, dont j'essaie de tisser un petit peu l'histoire, et moi-même, disons, de comprendre les coordonnées. Il y a l'armée française, à un certain moment de son histoire, là encore, enfin, et puis le monde politique, et puis le monde économique, dont vous disiez la Banque d'Indochine, évidemment, qui est, d'une certaine façon, l'institution maîtresse, qui... On le voit, échappe souvent assez largement à la littérature, mais pas tant que ça. Il y a toute une tradition, là encore, depuis Balzac jusqu'à Zola, où la banque est tout de même aux premières loges. Elle finit toujours, disons que la comédie humaine, ça termine toujours à un moment chez le baron Nucingen. Vous voyez, il y a toujours un moment où les Rastignac du coin ont besoin de lui. Vous voyez, les chiens de Rubempré, enfin, ils sont toujours là, ils planent au-dessus. De la même façon, dans les Rougon-Macquart, on voit bien que l'argent, qui est le titre d'un des livres, est au fond un ouvrage central des Rougon-Macquart. C'est là que tout commence et tout finit, en somme. Et je ne crois pas que ces choses-là aient beaucoup changé depuis. Je crois qu'au contraire, nous le savons tous, ce pouvoir-là s'est renforcé. Il est donc intéressant d'essayer de le raconter un peu de l'intérieur. Donc là encore, j'ai cherché un petit document concernant la banque, comment je me suis familiarisé avec ces gens-là. Alors c'est difficile, puisqu'ils cachent beaucoup leur vie privée, beaucoup plus que les hommes politiques. Mais je suis tombé sur une petite scène dans un livre, L'art de recevoir, de la princesse Françoise de Polignac, qui a écrit ses souvenirs et qui raconte ceci. Il y avait aussi des folles soirées avec des gens très sérieux qui finissaient par se lancer à la tête la croûte feuilletée des truffes, les belles truffes noires de Périgord, cuites au champagne et bardées de lard, d'un dîner donné par Jean Tannery lors de sa nomination à la direction de la Banque de France. Donc voilà comment elle raconte un dîner chez elle. Elle était salonarde, elle recevait le tout Paris chez elle, avec donc au moins trois personnes du monde de la banque. Jean Tannery, qui a dirigé la Banque de France, donc l'institution publique la plus importante. André Meyer, qui dirigeait la Banque Lazare, une des banques les plus importantes. Et Paul Baudouin, qui dirigeait justement la Banque d'Indochine. Donc voilà comment on peut tout, disons, se désillusionner sur le sérieux de la prose des conseils d'administration et se dire qu'on peut les traiter autrement, essayer justement de les comment dire, ça vient faire tomber justement le tabou qui est inscrit dans le sérieux du costume et puis dans leur prose toujours très contrôlée au fond, qui derrière laquelle il faut essayer un petit peu d'y voir plus clair. Alors pour le Parlement, le Parlement, la différence avec d'autres institutions, c'est que je l'ai fréquenté. Jadis, j'avais entamé un travail de thèse il y a très longtemps, quand j'étais étudiant, sur les parlementaires européens, enfin en Europe, pas européens, sur les parlementaires français, italiens, anglais. Et donc je suis allé très très souvent en fait au Parlement français, observer les séances, aller à la buvette, interroger des députés. J'ai dû interroger entre 70 et 80 députés à l'époque. Donc, disons, je me suis très fortement documenté sans le savoir pour ce livre à venir de nombreuses années après. Et donc, je les ai vus aussi. J'ai observé beaucoup à l'époque. J'avais pris des notes et j'en ai reparlé avec une amie qui a travaillé longtemps au Parlement, à laquelle j'ai dédié d'ailleurs ce livre. Par exemple, il y a ce moment où les députés se tiennent en rond pour discuter. Ils ont des petits conciliabules comme ça et leurs pieds, vous voyez, sont un peu rentrés comme ça, comme les pingouins. Donc, disons que si ces scènes ou ces portraits ont une certaine densité ironique ou comique, je crois là encore que l'ironie n'est pas, du côté de la fiction, du côté... Je crois que l'ironie est une façon de comprendre, de saisir certaines choses. Je crois par exemple que Daumier nous dit des choses sur le monde juridique, le monde parlementaire aussi, qu'une étude, disons plus sérieuse en apparence, ne nous dirait pas, ne nous dévoilerait pas. C'est d'ailleurs en partie pourquoi nous regardons toujours ces caricatures et qu'elles sont toujours pour nous vivantes. Elles disent encore quelque chose, disent, par exemple, d'une partie, il n'y a pas que ça, évidemment, de la fausse éloquence parlementaire, de la fausse éloquence du prétoire, etc. Même s'il n'y a pas que de la fausse éloquence, il y a quelque chose, disons, des effets de robe, des effets de manche, etc., qui est absolument visible chez Daumier, qui est encore visible aujourd'hui sous d'autres formes, et on peut dire dont ce qu'on appelle la caricature, en réalité, nous donne et nous livre la vérité.
Une belle phase pour terminer.
Merci.
Merci beaucoup.
L'écrivain Éric Guillard était l'invité de la 23e édition de Litteramour. Je suis Sigrid Brinkmann, je me réjouis de votre intérêt et souhaite vous retrouver prochainement. À bientôt.